Vous écoutez
RMC.
On est ensemble sur RMC jusqu'à 5h du matin en direct avec Walid Acherchour, avec Maxime Chano. Et vous le savez, les USA sont actuellement en train de jouer face au Paraguay. Valentin Germain, il y a eu un deuxième but.
Et cette fois-ci, il est validé. Le but de Follarin Balogun qui a vu sa réalisation annulée à la 28e minute sur hors-jeu. Et là, il a suffi de trois passes à Walid. Une excellente passe claquée de celui qui joue défenseur gauche, Robinson, en profondeur vers Pulisic. Ailier de débordement sur le coup, Pulisic qui se réaxe, qui centre, et Follarin Balogun qui dans la surface de réparation met son plat du pied droit. Pulisic encore impliqué.
Ouais,
Balogun.
Pulisic, il fait une super première mi-temps. Mais bon, on n'est pas surpris. On sait que c'est le joueur de cette équipe. Mais il répond présent dans cet événement rempli de pression pour les Américains. Mais Balogun, McKenny, Pulisic, ça va trop vite pour les Paraguayens. On l'avait dit, équipe athlétique, il y a du mouvement, c'est mobile. C'est vraiment bien ce qu'ils font les Américains sur cette première demi-heure.
Après, la tactique du Paraguay là, d'attendre les Américains avec justement la qualité offensive qu'ils ont, hein, Pulisic, McKenny, Balogun, elle est quand même assez surprenante. Ils perdent 2-0, ils continuent quand même à avoir ce bloc bas. Je me questionne quand même sur la mentalité de cette équipe.
Et il y en a un qui a une grosse activité, Maxime. Je ne sais pas si tu connais bien Robinson, qui joue à Cincinnati, là, le joueur de 29 ans qui est avant-dernier passeur sur le but de Balogun, mais il a une grosse activité, une bonne qualité de pied. Là encore, il va servir sur le côté gauche, McKenny, finalement, dégagement. En tout cas, il est très très bon pour le moment, et il a permis à son équipe notamment de marquer le deuxième but après 34 minutes de jeu.
De toute façon, il y a de la qualité dans cette équipe, on le connaît, on sait. Je me questionnais justement sur la qualité défensive qui pour moi était la carence de cette équipe nationale, on l'avait dit, et notamment le capitaine Tim Ream. Mais là, les Paraguayens, finalement, avec cette tactique assez basse quand même, ce bloc très resserré est très bas, parce qu'on peut appeler ça un bloc bas, c'est presque les Américains qui ont la possession de balle. Voilà, ils ne les mettent vraiment pas en difficulté, donc c'est assez incompréhensible pour être honnête. Je ne sais pas si l'entraîneur va essayer de changer quelque chose à la mi-temps, mais en tout cas il y a quelque chose qui ne va pas côté paraguayen. Et en tout cas les Américains sont super bons, c'est performant. J'aime beaucoup le dépassement de fonction de Malik Tillman et de McKenny, les deux là, ça fonctionne bien ce milieu de terrain.
Tous les hommes forts, ceux qui étaient attendus côté Team USA.
Attention, avec encore une frappe peut-être de la part des Américains, avec Tillman, je crois, qui a récupéré ce ballon, qui va essayer de la glisser dans la surface de réparation. Et il fait un très très gros contre-pressing. Le ballon a finalement été récupéré, mais on a du mal à sortir. Côté paraguayen, finalement, ça va partir sur le côté gauche. Et dégagement, donc 2-0, 35 minutes de jeu. Mais ils ne s'en sortent pas, et les Américains ont déjà récupéré sur le côté droit avec Dest dans le camp paraguayen. 1, 2, 3, le slalom de la part du joueur du PSV. Le ballon est dans les pieds maintenant de Balogun, qui l'a récupéré malgré la faute sur Dest. Balogun à 25 mètres, qui va écarter et qui va revenir en retrait, même vers Tim Ream, qui va écarter sur le côté gauche. C'était plutôt Robinson qui va trouver Pulisic, couloir gauche. Le 1 contre 1 face à Caceres. Le crochet de Pulisic, il est passé. Le centre du joueur de Milan, la tête de Balogun qui va juste prolonger le ballon au deuxième poteau, mais il ne voit pas le jour. Les Paraguayens, le ballon est déjà récupéré encore une fois par les États-Unis avec la passe sur le côté droit en direction de Dest de la part de Richards. Le centre de Serginho Dest. On a fait une petite poussette là du côté des États-Unis, mais le ballon est encore à l'entrée de la surface de réparation et encore récupéré. Messieurs, par une équipe qui maîtrise complètement son sujet.
Ce contre-pressing américain, dès qu'ils perdent le ballon sur les 3 secondes, ils agressent les Paraguayens avec 3 ou 4 Américains. Enfin, on sent vraiment la patte Pochettino, il ne les laisse pas respirer. Et c'est aussi la raison pour laquelle je pense que les Américains arrivent à mettre le pied sur le ballon, parce que les Paraguayens sont complètement étouffés depuis le début de ce match.
Les États-Unis qui sont vraiment bien rentrés dans ce match, 35 minutes de jeu, et les USA donc qui mènent 2-0 face au Paraguay. Messieurs, on va se tourner vers le premier choc de ce mondial. Là déjà, vous êtes tous d'accord, c'est un choc, ce fameux Maroc-Brésil qui va se jouer demain au stade, là dans le New Jersey. On a tous hâte de voir cette rencontre.
Ah oui, c'est pour moi, avec France-Sénégal, c'est les deux grosses affiches de ce premier tour.
On a effectivement eu aujourd'hui des conférences de presse, vous le savez. Alors c'est une première pour Carlo Ancelotti en tant que sélectionneur. Il se retrouve sélectionneur du Brésil, et c'est également important pour Wabi, qui vient d'être nommé après le départ de Regragui suite à la finale de la CAN. Aujourd'hui, Wabi était aux côtés d'Hakimi, le joueur du PSG et capitaine de la sélection marocaine. On écoute Hakimi sur les forces du Maroc.
Je pense qu'on sait, comme je dis déjà, que l'adversaire qu'on va jouer demain, on connaît la nation du Brésil, la qualité qu'elle a, les joueurs qu'ils sont. Mais aussi, nous, on a de la qualité. Et ils s'appellent, en Afrique, ils s'appellent nous les Brésiliens africains. Parce que aussi, on est des joueurs de qualité avec notre force. Je pense qu'on est prêt pour faire quelque chose de grand, avec la confiance, avec tout le soutien de tous les Marocains. Et je pense qu'on va être bien performant pour cette Coupe du Monde et bien commencer dès le match de demain.
Hakimi qui se présente évidemment avec beaucoup de certitude. Le Maroc est demi-finaliste du dernier mondial, ils ont gagné ou en tout cas ils sont arrivés en finale de la CAN. Il y a aujourd'hui sur RMC Hadji, la légende, qui nous disait le Maroc peut regarder le Brésil dans les yeux. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs? Est-ce que ce match est très équilibré? Est-ce que pour vous il y a un favori ou pas du tout?
Le Brésil reste favori par rapport, je pense, à son passif, mais c'est vrai que
ils
quand
ont plus rien gagné depuis 2002. Non, mais son passif,
niveau coupe du monde, ça reste le Brésil, Karine, c'est-à-dire que les individualités sont quand même des top individualités. Et puis le Brésil, c'est même à l'instar de la France, de l'Angleterre, c'est des nations qui comptent dans le football moderne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si pour moi le Maroc est une des équipes nationales qui a le plus évolué sur les dernières années, évidemment il y a cette finale de CAN, il y a cette demi-finale de Coupe du Monde en 2022, il y a aussi ce championnat d'Europe, du monde U20 qui a été remporté par les Marocains. Quand tu regardes un petit peu sur les dernières années, l'équipe nationale du Maroc, pour moi c'est l'équipe qui a peut-être le plus évolué. Alors après, tu avais dit qu'il y avait des certitudes, il y a aussi des questionnements, comment les Marocains, en tout cas les joueurs, vont réagir un petit peu à l'arrivée de Wabi. On sait que Wabi c'est l'entraîneur qui a justement fait gagner cette équipe U20 au championnat du monde, mais on sait aussi qu'il n'a pas forcément l'expérience du très très haut niveau. Donc ça, moi, c'est vraiment la question que je me pose par rapport à cette équipe, surtout qu'il est arrivé quand même au mois de mars, donc c'est encore très très récent. Mais oui, moi je pense sincèrement que les Marocains, quand tu vois aussi leurs individualités, ils peuvent regarder sérieusement les Brésiliens dans les yeux.
Walid, est-ce que parce que on nous dit Brésil, pays du football, évidemment avec tout le poids de l'histoire, forcément on ne surestime pas un peu cette nation? Depuis 2002, il y a eu quand même beaucoup de désillusions aussi avec la Seleção.
Oui, il y a eu des désillusions. Après, faut voir aussi comment le Brésil sort. En 2022, ils sortent au tir au but contre la Croatie. Voilà, en 2018, ils sortent contre la Belgique avec un Courtois incroyable. Oui, il y a flop. C'est le cas, c'est factuel depuis un moment pour le Brésil. Après, c'est jamais une mince affaire de les sortir. Donc moi, je respecte quand même le Brésil, même si collectivement, moi, je pense que le Maroc est supérieur. Ils sont et pour moi je pense que collectivement le Maroc a plus de certitudes. Je pense que en fait tu fais l'association des individualités, le Maroc est beaucoup plus compact et beaucoup plus cohérent, je pense, par rapport au Brésil. Par contre, sur les individualités, pour moi, il y a pas photo. Le Brésil est bien bien supérieur au Maroc, malgré le fait que le Maroc ait réduit l'écart avec un travail de fond magistral, exceptionnel de la fédération depuis un moment. Je vais pas paraphraser Maxime, il a tout dit sur la dynamique récente. C'est aujourd'hui l'équipe avec le Sénégal qui peut faire un gros parcours en Coupe du Monde sur le continent africain. Maintenant, attention, parce que Karine, moi j'entends ces derniers jours sur RMC pas mal de consultants que je respecte, hein, bien évidemment, ou même des éditorialistes, où j'ai l'impression qu'en fait on est en train de passer de l'autre côté. En fait, j'entends des choses, on dirait c'est le Maroc qui est favori.
Et pourquoi pas?
Non.
Mais parce que le poids de l'histoire?
Oui, le poids de l'histoire, parce qu'il y a aussi des questionnements sur le Maroc, sur le nouveau sélectionneur, parce qu'il y a aussi pas mal de joueurs qui n'étaient pas là en 2022 ou qui n'avaient pas ce rôle-là en 2022 qui vont jouer avec le Maroc. T'as l'incorporation de Bouadi et d'El Aïnaoui qui sont deux super joueurs, mais la Coupe du Monde, ça reste la Coupe du Monde. T'as Aguert qui s'est blessé, t'as Abdé qui était en grande forme aussi qui s'est blessé. T'as l'histoire du numéro 9 avec Saïba qui va jouer au poste de faux numéro 9.
T'as... Voilà.
Non mais moi je dis vraiment, si demain tu me dis que le Maroc fait un coup contre le Brésil, je suis ok avec ça. Je vais continuer à valoriser quand même, parce que maintenant, vu que le Maroc a fait demi-finale de Coupe du Monde, mais attention, il ne faut pas que ce soit un one shot. Le plus dur, c'est la confirmation pour le Maroc. Moi, je continuerai à valoriser une victoire du Maroc contre le Brésil. Moi, je te le dis dans les yeux, Karine. Si le Maroc gagne demain contre le Brésil, ils envoient un sacré message à la Coupe du Monde. Ouais. On peut pas me dire que tout le monde. Alors, on sera pas sur le cul comme en 2022, oui, quand ils sortent l'Espagne, quand ils sortent le Portugal, parce qu'il y aura une force, il y aura une récurrence. Mais quand même, moi, si on fait le rapport de force sur les individualités, moi, je pense qu'il y a deux, trois joueurs max qui jouent au Brésil du côté du Maroc. Il y a Hakimi, Mazraoui, peut-être Bono et encore.
et allez, tu me prends un mec comme tu me ouais, mais c'est tout. Non non, pour moi Diaz il joue pas, pour moi. Pour moi Diaz il joue pas au Brésil. Pour moi Rafinha et Vinicius mettent une tempête à Brahim Diaz
footballistiquement. Tu le prends pas dans la sélection.
Ah si, 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 si je te parle de l'11. Je te parle de l'11. Et par contre, moi je pense qu'il y a au moins une quinzaine de joueurs du côté du brésilien du Brésil individuellement qui jouent titulaire au Maroc hein. Je pense que même que João Pedro qui est pas dans la liste qui est titulaire avec Chelsea, je pense qu'il est marocain, il est titulaire avec le Maroc.
Oui, donc le vivier
brésilien est quand même à respecter. Maintenant, la mise en situation collectivement, ça va être tout le travail de Carlo Ancelotti. Pour moi, ils sont en retard. Ils sont en retard par rapport au Maroc. Mais on sait très bien que dans ce type de compétition, c'est la magie d'un Vinicius, la magie d'un Rafinha, un Bruno Guimarães, ces joueurs-là qui peuvent faire la différence. Moi, tu prends la charnière centrale du Brésil, par exemple, et la charnière centrale du Maroc. Pour moi, il y a pas photo. Gabriel Marquinhos, c'est quand même très très solide en termes d'expérience. Donc voilà. Oui.
Il faut voir aussi dans quel état est Gabriel.
Bien sûr, c'est un match très excitant, mais attention quand même à ne pas banaliser une potentielle victoire du Maroc. Moi je trouve qu'on se là on est en train de s'échapper un peu de
je
trouve que le débat on le retourne là en disant ouais, le Maroc s'il les surprennent c'est normal ouais les gars attention quand même
et attention à pas trop non plus comparer le parcours du Maroc avec celui de 2022 parce que n'oubliez pas qu'en 2022 il y avait beaucoup moins d'équipes, c'est-à-dire que quand tu sortais des poules t'as dérivé directement en 8e de finale. Là avec ce nouveau format t'as un 16e de finale supplémentaire, donc pour arriver en demi-finale au moins pour pouvoir égaler le parcours
trois équipes sur c'est-à-dire que
exactement ça devient un peu plus dur
et avec un statut qui sera différent parce que là le Maroc tout le monde les respecte, tout le monde sait qu'il y a une valeur, qu'il y a des vrais joueurs et que on va peut-être leur demander de jouer un peu plus au football par rapport à 2022 où il y avait une équipe qui devait calquer son foot avec Walid Regragui où ils ont été très intelligents face au Portugal, face à l'Espagne. Je te donne un exemple, mais pour moi le Maroc a changé de statut. Ils ont changé de statut. Et ben quand ils vont jouer, je sais pas, en 16e le Japon ou une autre équipe, etc., ils seront sûrement favoris. Comment ils vont gérer tout ça?
Oui, mais c'était le cas aussi. Alors c'est pas la même chose, mais la CAN au pays, il y avait une pression de dingue. Ils étaient attendus à tous les matchs et ils sont arrivés en finale. Ils ont gagné ou pas. Mais enfin bon, bref, au final,
ils n'ont pas gagné sportivement en tout cas. Voilà. Ils l'ont gagné.
Ils ont fait ce qu'ils devaient faire avec une pression qui était complètement folle.
À moi, je trouve que la compétition du Maroc, elle est à valoriser parce que, comme tu le dis, il y avait une pression sans commune mesure. Et les matchs contre le Cameroun et les matchs contre le Nigeria ont été très très bien gérés et qu'il y avait une ligne de récupération haute, même si c'était pas un football chatoyant, mais ils ont réussi à se renouveler. Et puis surtout, ils ont des joueurs aujourd'hui avoir El Aïnaoui et Boadi.
C'est un très beau message à convaincre des binationaux.
Parce qu'il y a le cœur, mais il y a aussi, je pense moi, tout qui est réuni pour que ces joueurs-là s'expriment sportivement.
Et ça montre finalement la crédibilité du projet.
Il y a un élan qui est super, qui est énorme. Donc moi en tout cas je suis très très excité. Mais voilà, je voulais quand même remettre les points sur les i là-dessus. Victoire du Maroc contre le Brésil, vrai perf.
Mais pas exploit.
Walid,
et le Brésil favori quand même, les gars.
On est d'accord qu'il y a encore que quelques années, on n'aurait jamais mis le Maroc dans cette position-là.
Mais ça prouve aujourd'hui
l'évolution du Maroc et à quel point la fédération a très
bien travaillé. Ils ont réduit l'écart. Encore une fois, si tu dois comparer le vivier marocain et le vivier brésilien, c'est qu'à un moment, il y a eu un travail de fond qui a été fait. En 2002, tu compares le Maroc et tu compares le Brésil, c'est incomparable.
Je suis d'accord avec toi. Après, c'est cyclique. On sait que là, aujourd'hui, les Brésiliens sont dans un cycle un peu plus compliqué. Quand tu regardes individuellement, il reste énormément de talent. Vous l'avez dit avec Rafinha, je pense à Vinicius, évidemment Neymar. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on pourrait débattre.
Vous me citez trois joueurs.
Non, mais je suis pas convaincu. Trois joueurs. Tu prends Bruno Guimarães.
Non, mais tu es d'accord, mais il y a 15 ans, tous les joueurs du Brésil quasiment te faisaient rêver.
C'est pour ça que je te disais qu'aujourd'hui, c'est cyclique. C'est qu'aujourd'hui, au Brésil, c'est vrai qu'ils sont dans un cycle qui est peut-être un peu moins chatoyant, comme tu as dit. Vraiment, c'est vrai que par rapport à cette génération de 2006, où est-ce qu'ils nous ont fait rêver avec des Rivaldo, des Ronaldo et compagnie. Là, quand tu regardes actuellement l'équipe du Brésil, ça te fait peut-être un peu moins rêver, certes, mais ça reste quand même une grande nation. Évidemment, il y a ce qu'ils ont fait dans le passé, il y a toutes ces victoires en Coupe du Monde, il y a cette expérience, et puis surtout, tu as un Ancelotti, je pense qu'il va aussi vouloir montrer que voilà, c'est un technicien qui est en mesure de pouvoir gérer tous ses égos. Je reste quand même persuadé que Neymar a été une erreur de de le sélectionner. Et surtout quand tu parles de Joao Pedro qui reste à la maison, ouais, je comprends pas trop pourquoi ils ont choisi Neymar. Après, encore une fois,
enfin, c'est, je pense c'est pas que ce soit le même profil, mais
non, mais en tout cas, ouais, il a pris la place, oui, d'un offensif. Oui, ça aurait, oui, pu être Joao Pedro comme un autre. Et c'est vrai que d'avoir Neymar qui est dans la situation qu'il est actuelle, j'espère que ça va pas être un poids pour ce Brésil. Mais actuellement, si tu compares les deux équipes, il y a pas photo, le Brésil est devant. Mais collectivement, je pense que le Maroc peut regarder le Brésil dans les yeux.
Mais Karine, en fait, ce que je veux te dire, c'est que en fait, il y a un prisme brésilien négatif par rapport à ce qu'on a connu étant plus jeune, d'accord. Mais le dénivelé entre les deux, si tu regardes sur les dernières compétitions, le Brésil c'est minimum quart de finale.
Oui, mais c'est pas assez pour le Brésil. Ouais,
c'est pas assez pour le Brésil. Mais là, tu me présentes un match entre le Maroc et le Brésil, pas entre le Brésil et la France, pas entre le Brésil et les meilleures équipes au monde. Même si pour moi, le Maroc peut être dans un deuxième chapeau, voire dans un troisième chapeau. Ce que je veux te dire, c'est que ce qu'a fait le Maroc sur la demi-finale de la Coupe du Monde, c'est pas une anomalie, mais c'est un exploit monumental.
Bien sûr, bien,
d'accord,
sûr,
par rapport aux 20 dernières années ou même aux 50 dernières années de ce pays. Ils sont sur une dynamique positive, ascendante. Mais maintenant, aujourd'hui, en fait, faut pas prendre ce résultat-là comme la normalité pour le Maroc. Alors, oui, ils jouent le Brésil tout de suite et ça va être intéressant de voir comment ils vont pouvoir les challenger, mais les favoris, ça reste quand même le Brésil. Quand tu as sur le banc, tu vas avoir des joueurs qui ont mis des 20 buts en première ligue, des Matheus Cunha, des Martinelli, des Igor Thiago, des Neymar, parce que Neymar, quand il va rentrer demain, s'il rentre 15-20 minutes, même si Neymar il est à cloche-pied, il va générer quelque chose. Il va générer une pression positive ou négative, même chez l'adversaire, une crainte.
Oui, il va se faire un claquage au premier ballon.
Ok, très bien, mais moi je dis juste qu'il faut quand même respecter les Brésiliens. Il faut quand même respecter les Brésiliens là-dessus. Voilà, tout simplement. Et par contre, si le Maroc le fait demain, mais là encore une fois, on le dira, on sera le haut-parleur ici à RMC, et je dirais, c'est encore une fois très très fort de la part du Maroc. Voilà.
On rappelle donc que demain il y a ce match que tout le monde attend. C'est vrai que c'est l'un des matchs les plus excitants de cette phase de groupe et de la première journée avec ce Brésil-Maroc. Il y avait aujourd'hui Carlo Ancelotti. C'est vrai que quand même c'est une attraction aussi. Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, donc ils ont choisi un étranger. C'est la première fois que Carlo Ancelotti se retrouve à la tête d'une sélection.
Et son premier match de Coupe du Monde, et c'est l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps.
Oui.
Et c'est vrai que c'est l'attraction. T'as raison.
Il y a une attente de dingue quand même aussi, Maxime, parce que on sait que ça c'est terminé au Real Madrid. Bon, le Real Madrid va pas mieux hein, depuis qu'il est parti, bien au contraire, mais c'est vrai que là t'as quand même l'un des plus grands entraîneurs du monde, un mec qui a réussi en tant que joueur, qui a réussi en tant qu'entraîneur et qui va peut-être réussir aussi comme sélectionneur. En tout cas, tout le monde a hâte de voir
ballon
ça.
Ballon coup exceptionnel. 3-0 pour les États-Unis, on est dans le temps additionnel, 49e minute de jeu, 3-0 face au Paraguay. La passe en profondeur claquée, exceptionnelle, et Folari de Balogun qui à droite de la surface de réparation contrôle et limite son vis-à-vis et met une frappe enroulée dans la lucarne d'Orlando Gil. C'est trop facile, c'est la mi-temps rêvée pour les États-Unis grâce à un doublé de Balogun et un but contre son camp. Ils mènent 3-0 les Américains.
Balogun, c'est pas Jonathan David hein. Ah, je peux te le dire hein. Ouais. Ah, c'est pas le même niveau hein. Ouais. Quand tu vois les cannes qu'il a, quand tu vois tout ce qu'il fait sans le ballon, moi je kiffe cet attaquant. Bon, après, je le dis à chaque fois depuis qu'il est arrivé en Ligue 1. Alors il a du déchet, etc. Mais c'est une bombe atomique. Après, c'est un mec qui pue le football moderne. Là tu vois comment il passe devant l'adversaire, la finition.
Ces appels en profondeur justement font très très mal à la défense paraguayenne. Après, tu peux pas vraiment comparer avec le match de cet après-midi où les Bosniaques jouaient quasiment devant leur but avec très très peu d'espace dans le dos de la défense. Mais c'est vrai que Balogun, dans ce genre de scénario, avec une défense qui joue relativement haute, en tout cas sur cette action-là, avec des passeurs comme Pulisic, comme McKennie, comme Tyler Adams, pour ne citer que, évidemment, c'est un vrai
potentiel,
une superbe force pour cette équipe nationale.
C'est une bombe.
Mais c'est vrai que ce qu'on a vu du côté du Stade de Reims, ce qu'on est en train de voir du côté de Monaco et ce qu'on voit là ce soir du côté des États-Unis, honnêtement, avec le potentiel qu'il a, je pense qu'il peut faire une très très belle carrière.
Et j'en place une pour Jonathan David, parce que moi ça fait un moment, alors, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais on va en profiter quand même, Karine. C'est que Jonathan David, moi ça fait un moment que je dis qu'entre les pénaltys à Lille, c'est un joueur, un vrai bon joueur de Ligue 1, fiable, mais que pour moi c'est pas le très haut niveau. On l'a encore vu aujourd'hui contre la Bosnie où Larine, là, son remplaçant, il est rentré, il a fait la différence. Lui, il traîne sa peine sur le terrain. Je le trouve je trouve en surpoids. Je le trouve physiquement pas fit. Je trouve que ce joueur-là est surcoté. Jonathan David est sur. À Lille en Ligue 1, il a mis ses buts. Il y a aucun problème. Mais quand je disais ça moi à l'époque en after, en disant il a un plafond de verre ce mec-là et vous verrez où il ira, ça fonctionnera pas. Bah, que ce soit avec le Canada pour l'instant en Coupe du Monde et avec la Juventus, on voit que c'est pas un grand attaquant ce joueur. Ce joueur c'est un bon attaquant, honnête, mais il y a un plafond.
On dira un petit mot effectivement de ce Canada Bosnie, un but partout. C'est la pause, Valentin. Première mi-temps rêvée pour les Américains.
Magnifique première mi-temps et c'est mérité hein, parce qu'il y a 3-0 donc à la pause, 72% de possession, 7 tirs à 2 et avec une équipe sur le terrain, c'était les États-Unis. Bobadilla contre son camp à la 7e minute de jeu et Balogun deux fois, 31e et 49e. Il est magnifique ce but Balogun, 11e but en sélection, il en avait mis 19 avec Monaco cette saison. Il permet aux États-Unis de mener 3-0 à la pause.
Merci beaucoup Valentin, on te retrouve un petit peu plus tard. En tout cas les États-Unis qui réussissent leur entrée dans l'heure mondiale avec un succès 3-0 en une mi-temps et après. A priori, ça devrait continuer en seconde période parce qu'ils sont largement dominateurs face au Paraguay. Sachez que demain, il y a le match que tout le monde attend entre le Brésil et le Maroc. Et c'est la folie à Times Square, à quelques kilomètres de nos studios. Il y a des supporters marocains de partout. Loïc Lefort, qui est sur place, va nous raconter cette ambiance de dingue parce que les Lions de l'Atlas seront largement encouragés demain. On sait qu'évidemment, il y aura beaucoup de Brésiliens, mais les Marocains également ont fait le déplacement.